Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc ouais, qu'est-ce qu'on fait ? Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté.
Hey, Tony Parker était un meneur sur le terrain, mais aussi un meneur dans le vestiaire. C'est notre invité aujourd'hui dans On refait le sport en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France pour son livre notamment Tony Parker, au-delà de tous mes rêves aux éditions Solar. Ce discours, Tony, c'est celui à la mi-temps de France-Espagne Euro 2013, qui est d'ailleurs, d'après ce que tu écris dans le livre, ton meilleur souvenir de basketteur. Il y a eu le titre européen après, c'est ton grand titre avec l'équipe de France.
Ouais, c'est ma plus grande fierté. C'est le titre qui était le plus dur à aller chercher. Et donc, franchement, c'est... chaque fois que j'y pense, ça me donne un peu les frissons. C'était vraiment des moments inoubliables. Et de faire ça avec mes potes avec qui j'ai grandi. Je commençais en équipe de France à 14 ans. Et je m'étais toujours promis que j'amènerais le premier titre de l'histoire au basket français. Et si je n'avais pas réussi ce challenge-là, j'aurais l'impression que je n'ai pas réussi ma carrière. Donc, c'était vraiment un gros truc. Je me rappellerai toujours le jour de la finale. Je reçois tellement de textos et les gens, ils voulaient tellement qu'on gagne et que je gagne avec l'équipe de France que j'ai commencé à avoir des larmes aux yeux en lisant les textos et je lisais toutes les déclarations dans le journal. Et les gens, j'ai l'impression que voilà, il y avait tout le pays derrière nous et c'était une sensation. J'ai jamais ressenti ça quand j'étais en NBA.
Tony, tu parles effectivement de cette victoire, mais il y a aussi des qualifications en Belgique au mois de juin après une saison haletante et harassante en NBA où tu viens aider les copains pour une qualification à l'Euro. On est toujours surpris par ton attachement à cette équipe de France. Ton père est américain, ta mère est néerlandaise, tu es né en Belgique, à Bruges.
Mm-hmm. Tu n'aurais pas dû être français normalement.
C'est ça.
Et on a été bon sur la naturalisation, on a été très bon.
Et tu as demandé la naturalisation à 14 ans, il y a toujours eu cet attachement viscéral pour le maillot bleu.
Ouais, ça te vient d'où en fait?
Ben, je sais pas, j'ai toujours ressenti ça, je suis quelqu'un de reconnaissant et c'est vrai qu'à 14 ans je vais en équipe de France et là je commence à vivre en fait, pour la première fois je voyage, on va dans toute l'Europe et tu crées des liens forts.
Dans le bouquin tu racontes, il y a l'importance de, bon, tes parents sont séparés et à 9 ans tu débarques à Fécamp chez ta maman Pamela. Donc c'est là où tu prends ta première licence de basketteur. Ce qui m'a marqué aussi c'est quand tu débarques à l'INSEP et tu racontes en fait, tu débarques à l'INSEP avec ta mère dans la deux chevaux familiale. Ouais. On t'y voit.
D'ailleurs, deux chevaux a fait son apparition sur ma vidéo Spurs dans la cérémonie.
C'est vrai.
Mais c'est comme ça que j'ai grandi. Ma mère, elle adorait cette voiture. Et c'est vrai que la deux chevaux, j'ai tellement de souvenirs. Et c'est symbolique, le fait d'arriver à l'INSEP avec la deux chevaux et je commençais à visiter le campus. C'est vrai que c'est comme si c'était hier, quoi. Je m'en rappelle. C'était vraiment un fort moment pour moi et ma maman. Ma mère m'a amené partout quand j'étais jeune, hein, tous les tournois, tous les matchs.
Comme beaucoup de parents.
Ouais. Exactement. Et donc, c'était sympa d'avoir ces images-là et de pouvoir les mettre à la cérémonie. Je sais que ma mère, elle a apprécié.
Heureusement que tu avais une dizaine d'années, parce que la deux chevaux, après, en grandissant pour un basketteur, c'est pas
c'est
forcément
un peu dur.
La voiture idéale, mais quand on est petit, ça marche. Alors, Tony, tu as laissé évidemment une empreinte chez les supporters français, chez tous les amoureux du basket. Émile Leclerc est également avec nous dans Refait Sport. Bonsoir, Émile.
Bonsoir.
Directeur d'études d'Odoxa. Chaque semaine, nous avons un baromètre Odoxa pour RTL et Groupama. Évidemment, cette semaine, il te concerne. Autant dire, les chiffres sont, voilà, c'est des plébiscites quasiment sur chaque question. Tony Parker est le plus grand basketteur de l'histoire, pour la France en tout cas.
Exactement. Alors, déjà, une popularité qui a atteint des sommets, puisque 87% des Français et 92% des amateurs de basket ont une bonne opinion de toi. Et cette popularité, finalement, elle est assez justifiée. Alors, le basketteur, bien évidemment, hein, vous êtes considéré comme talentueux à 89%. Vous incarnez bien les valeurs du sport à 83%. Vous êtes un sportif dont la France peut être fière à 86%, mais c'est aussi l'homme qui est apprécié puisqu'il vous juge sympathique à 87% et proche des gens à 76%, et on y reviendra tout à l'heure. Tout ça, à mon avis, il faut mettre au service du basket qui n'est pas encore très suivi par les Français par rapport à d'autres sports collectifs.
Oui, c'est ça qui ressort de ce sondage. 28% seulement des Français disent s'intéresser au basket. C'est bien moins que le foot, le rugby, le handball. Comment ça se fait que ça n'arrive pas à percer comme ça au-delà de ça?
C'est une très très bonne question, parce qu'à chaque fois qu'on amène des gens à l'ASVEL ou j'amenais des gens à un match de l'équipe de France, ils adorent et ils reviennent. Et j'ai jamais eu une personne que j'ai amenée qui connaissait rien au basket, m'a dit « Oh non, j'aime pas trop » ou « est pas revenu ». Je pense que le plus dur, c'est là, on passe pas à la télé. Voilà, le foot, c'est le sport numéro un, et ça, il n'y a rien à dire. Le rugby, ils ont très très bien travaillé dans les années 90, les années 2000, avec leur top 14, là, ils ont fait du très très bon boulot. Maintenant, c'est à nous d'essayer d'améliorer, on va dire, nos offres. et je pense que moi, j'ai voulu prendre un club et à travers l'ASVEL, j'essaye de redonner au basket français à ma façon. On essaye de grandir. Mais bon, après, je pense qu'on a pas mal de retard sur ces sports-là. Mais bon, le basket reste un sport plaisant. Maintenant, à nous de le faire découvrir.
Tony, ce qui est fascinant, donc toujours à travers le bouquin, c'est que j'ai découvert que finalement, et Eric le disait tout à l'heure, ton meilleur souvenir, c'est finalement ces moments avec l'équipe de France, au-delà des bagues NBA. Ouais. J'aurais cru que ça aurait été l'inverse.
Je pense que le fait aussi en NBA, j'ai gagné à 21 ans, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, donc j'ai gagné tôt, donc je ne vais pas dire que c'était facile, mais j'ai gagné tôt. Et que l'équipe de France, le fait que de 19 ans jusqu'à 30, 31, on n'arrivait pas à gagner, c'est devenu une obsession de gagner en équipe de France. Et tu commençais à avoir un peu cette peur, que peut-être c'est la dernière chance, c'est la dernière fois que je peux essayer de gagner quelque chose avec l'équipe de France. Et je pense que c'est pour ça que ce moment est devenu tellement fort.
Tu as gagné le titre européen avec les Bleus, mais pour l'instant, par exemple, au jeu, il n'y a pas cette victoire au jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, beaucoup de Français qui sont NBA, on l'a dit tout à l'heure, cette culture de ne pas avoir peur, les Fourniers, les Gobert et compagnie,
qui ont été bons lors de la dernière Coupe du Monde.
Qui ont été bons, qui n'ont pas gagné, mais qui ont été bons. Est-ce que cette équipe, elle va arriver à maturité? Est-ce que cette équipe de France, la mentalité française, va faire que, même au JO, finalement, un jour, ça va marcher?
Je pense que oui. C'est une de mes plus grandes fiertés aussi d'avoir inspiré toute une génération de basketteurs et que nous, quand on a eu notre médaille de bronze en 2005, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu de médaille dans le basket français. Imagine 50 ans, c'est très très long. Et là, on, avec ma génération, on a réussi à avoir 5 médailles. Et 3 ans après ma retraite, on regagne une médaille. Donc c'est très très important. Ça veut dire que les jeunes, ils se sont inspirés de nous et ils veulent faire mieux que nous. Et j'espère qu'un jour, ils auront des belles médailles aux Jeux Olympiques. Ouais. C'est pour ça, c'est comme ça que tu laisses une trace. C'est comment tu vas inspirer l'avenir.
On les a sentis très inspirés, très concernés. Je pense à Evan Fournier, Rudy Gobert. On sent qu'un peu comme toi... Je sens qu'ils sont en mission, en fait.
Exactement. Non, mais ça, c'est sûr qu'ils sont en mission. Hein. Evan et Rudy, j'ai joué avec les deux. Donc, je pense qu'ils ont vu comment moi, j'étais, comment Boris, il était, comment Florent Pietrus, il était. Et donc, ça fait plaisir. Et c'est pour ça que je suis allé les soutenir en Chine. Et j'ai assisté à cette belle médaille de bronze. Et j'espère que, dans 5 ans, on pourra avoir une belle médaille à Paris pendant les JO. Ce serait énorme.
On va parler dans quelques instants aussi de ta nouvelle vie, un peu de businessman. Rester dans le basket, entraîner, coacher... Par exemple, ça, c'est quelque chose qui ne t'a pas traversé l'esprit?
Non, ça ne m'intéresse pas, non.
Je ne veux pas crier sur les autres, Tony.
Je laisse ça à mes frères. Il faut vraiment être passionné pour être coach, parce que c'est vraiment des grands malades, les coachs. Ils sont tout le temps dans la salle. Ils sont dans la salle plus que quand tu es joueur. C'est impressionnant.
C'est Greg Popovich qui vous a dégoûté
Exactement. Mais pour moi, je préfère... Ouais, j'aime bien évidemment, le basket et le terrain, mais j'aime bien aussi le côté marketing, comment amener des fans dans la salle, comment améliorer leur expérience pendant un match, construire une salle, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc, c'est pour ça que je préfère regarder dans la globalité et faire plusieurs choses. Mais après, j'ai une équipe qui est en place, je leur fais confiance et ils font du très, très bon boulot. Donc, comme ça, je peux me concentrer sur autre chose et faire grandir mon sport.
Et bien justement, on va parler de tout ça dans la troisième partie d'On refait le sport. Et puis quand on a la classe et l'élégance de Tony Parker, c'est un peu dommage de rester en survêt et en basket toute la journée dans une salle. On est bien dehors et on est bien à représenter le basket français et la France en général. Et on se retrouve tout de suite.